Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Un texte que je vous propose, il y en aura deux, mais on va commencer donc par un que je vais commenter. Alors vous savez que nous sommes le jour de la Pentecôte aujourd'hui, voilà. Et la Bible en parle naturellement. Et on va commencer pour notre réflexion par le livre de la Genèse au chapitre 11. Alors peut-être que vous allez penser que je m'égare, parce que quelle relation pourrait-il y avoir entre la tour de Babel et puis la chambre haute à Jérusalem. Alors nous allons voir ça ensemble, partager et nourrir notre foi. Alors, Genèse, chapitre 11, il y a un tout petit paragraphe. Alors, c'est connu, hein, l'histoire de la tour de Babel. Pouf, c'est vieux comme le monde. Alors voilà, donc, Genèse 11, verset 1er, je lis ceci. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Et rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et puis, une deuxième lecture, mais je la lirai, on va la lire que partiellement, parce que nous y reviendrons tout à l'heure, comme je l'ai dit. Alors, naturellement, c'est Actes chapitre 2, hein. Ça c'est le texte incontournable. Alors, je vais lire simplement deux ou trois phrases. Alors, Actes chapitre 2, écoutez bien, verset 1er. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Je passe au verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Et puis j'en arrive maintenant au verset 11, un petit peu plus loin, il est question des gens qui habitent la Crète et les Arabes, et un peu plus loin, il nous y dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Alors, il y a quelque chose de surprenant, parce que finalement, nous avons là deux humanités divergentes. On pourrait se dire, eh bien voilà, donc, c'est des gens qui se rassemblent, et puis, ils sont en train de construire, ils s'unissent pour construire quelque chose, pour faire quelque chose. Mais nous avons là, par-delà peut-être les apparences, deux grandes séparations. Deux grandes divisions dans l'histoire de l'humanité, et nous pourrions parler peut-être de deux cortèges d'hommes. Vous savez qu'un jour, dans l'Évangile, il nous est rapporté que Jésus rentrait dans une ville qui s'appelait Nain, et il rentrait avec son cortège de disciples. Et avec Jésus, il y avait la joie, il y avait des cris, mais des cris de joie. Il y avait le bonheur, il y avait comme une onction de l'Esprit de Dieu. Et tout le monde suivait Jésus, et c'était quelque chose de formidable. Alors lui rentrait dans la ville de Nain, avec tout son cortège heureux, et puis de cette même ville de Nain, il sortait aussi un autre cortège, qui était un cortège funèbre. Et nous voyons qu'il y a eu la rencontre entre ces deux catégories. Il y a les uns qui pleuraient, puis les autres qui riaient. Et nous voyons qu'à un moment donné, par le fait du miraculeux et du surnaturel venant du ciel à travers Jésus, c'est le cortège de la joie qui l'a remporté sur le cortège de la mort à travers la résurrection de ce jeune homme qui venait juste de décéder. Et il était fils d'une pauvre veuve qui était plus tout seul, naturellement, sans soutien. Alors, Babel, un cortège. Nous l'avons lu tout à l'heure à la Pentecôte, un autre cortège. Mais il y a la distinction, elle se fait. C'est qu'à Babel, les uns s'éloignent de Dieu et à Jérusalem, dans la chambre haute, à la Pentecôte, eh bien, les hommes viennent à Dieu. Ils vont vers Dieu, ils vont à Dieu. Alors, que dire ? Que dire pour situer un peu notre réflexion ce matin ? Babel, ça veut dire tout simplement confondre, confusion, c'est-à-dire mêler, mélanger. Voilà, c'est ça le mot Babel, qui a donné le nom d'une ville qui a subsisté jusqu'au début de notre ère, fin de l'Antiquité, c'est la fameuse ville de Babylone. Et comme dans l'Apocalypse, il nous est parlé de Babylone, il nous est dit que la Babylone est devenue une grande prostituée. Elle est devenue un repaire de démons. Elle est devenue, eh bien, la folie de l'humanité à travers la corruption, à travers la licence, à travers toutes sortes de choses abominables et innommables. Ça, c'est le chapitre 18 qui nous dit ça dans le livre de... Alors, on voit qu'il y a quand même deux humanités. Voilà. Il y en a une qui s'en va, qui tourne le dos à Dieu, et puis l'autre qui revient vers Dieu. Et Babel, c'est en quelque sorte, c'est la famille humaine sauvée du déluge qui va essaimer sur la terre. Vous savez comment ça s'est passé quelques chapitres plus tôt. Il y a le déluge qui arrive. Et puis un homme inspiré qui s'appelle Noé reçoit les oracles de Dieu, reçoit la pensée de Dieu en disant « Construis-toi une arche, parce que toi tu seras sauvé, toi et ta famille, avec tous les animaux que tu prendras par couple, et la vie va survivre au désastre et au séisme. » Et nous voyons que c'est à partir de cette humanité-là que nous entrons tout à nouveau dans cette découverte de la ville de Babel. Alors on se demande à quoi a servi le déluge. Parce qu'on va voir que cette famille humaine qui va se rassembler à Babel n'est pas celle qui va servir Dieu. C'est au contraire l'émergence d'une société anti-Dieu, contraire à la foi. Une société qui ne regarde pas le ciel, mais qui regarde vers elle, qui regarde la terre, où l'homme regarde à soi en disant « Mais moi, je suis Dieu, et je suis capable de faire des choses comme Dieu. » D'ailleurs, Dieu n'existait pas. Alors on va s'inventer des dieux pour faire bien. Donc il va y avoir la naissance de religions, toutes sortes de choses. Alors, quand on prend le texte, on s'aperçoit, et nous l'avons commencé dans notre lecture, il nous est dit dans notre première phrase « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » C'est formidable, ça. Vous vous rendez compte? Tous les professeurs de langue au chômage. Enfin, aujourd'hui. Ce serait une véritable faillite. Hein. Mais voilà les choses pour nous montrer l'unité de la création. Oui. Et on aimerait bien que cette même unité se trouve dans la rédemption. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais une unité de création, une même langue et les mêmes mots. Remarquez, vous allez me dire que même quand on a une même langue et une même langue, on ne se comprend pas toujours. Hein. Même si on emploie les mêmes mots. Hein, parce que lorsque nous vivons dans un même pays avec un même langage, quelquefois, c'est pas toujours dans la compréhension que les choses avancent. Et puis voilà qu'un peu plus loin, il nous est dit que comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Ils se sont dit, voilà. Vous savez, les hommes n'aiment pas trop pour la montagne, parce que la montagne, c'est difficile à vivre. Hein. Il y a naturellement un beau spectacle, c'est beau, mais ça monte et ça descend. La vie est plus difficile, plus difficile, tout simplement. Et nous voyons qu'ils sont arrivés dans une région qu'ils appelaient Shinéar, et là, ils y habitèrent. Vous avez lu avec moi, dans notre texte précédent, puisque dans le livre des Actes, il nous est dit, si on fait la comparaison, Le jour de la Pentecôte, qui était une fête juive, hein, je le rappelle, qui existait déjà, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voyez les rassemblements, hein. Les hommes, il y a une similitude entre les deux, mais c'est pas le même endroit. Hein. Shinéar, c'est Shinéar, c'est une plaine, alors que Jérusalem, c'est une montagne, en quelque sorte, une petite montagne. Et ils se sont rassemblés aussi dans le même lieu. Alors qu'est-ce que les gens font quand ils se rassemblent dans un même lieu? Quelle est la raison? Et vous avez vu avec moi, il nous est dit qu'ils se dirent les uns les autres, et il est souligné, c'est qu'ils cherchaient, ils cherchaient un endroit. Et vous savez, l'homme qui a abandonné Dieu, il est comme un vagabond, puisqu'il nous a dit qu'ils cherchèrent. Hein, et ils trouvèrent. S'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont cherché. Il y a une image d'errance. Il y a une image de recherche et de trouver un lieu habitable. Où on puisse dire, eh bien voilà, c'est notre pays, nous allons y vivre, nous allons faire des choses, et il est à nous, c'est notre propriété. Ça a toujours été le grand drame des hommes pour... s'approprier un territoire. Les guerres, c'est ça, hein, faut pas se leurrer, il n'y a pas que des richesses, mais on veut la terre aussi, parce que dans la terre, il y a aussi des richesses. Et le meilleur pays soit-il. Vous savez, on bénéficie quand même d'un beau pays hein, chez nous. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, et on n'est pas prêt à le donner, hein, ça c'est clair. Hein. Et on sait ce qu'il a fallu faire, et on comprend le prix qu'a coûté eh bien, la défense. Finalement, eh bien, de notre pays, comme pour les autres, c'est la même chose pour eux-mêmes. Alors, ils cherchaient un lieu. Mais vous n'avez pas dit qu'ils cherchaient un Dieu. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que les hommes sont de la terre, et les hommes cherchent la terre, tout ce qui a un rapport avec la terre, à leur habitat, à leur bien-être, à leur confort, à leur satisfaction, à leur sécurité, ceci et cela. Mais ils ne cherchent pas un Dieu. Ils vont s'en faire des dieux. Mais ils ne cherchent pas le Dieu dont nous avons parlé, qui est à l'origine de l'unité de la création. C'est ça la grande différence. Un Dieu pour être heureux. Parce que vous allez voir avec moi que dans tout ce qu'ils vont entreprendre, c'est pour être heureux à Shinéar, dans la plaine de Shinéar. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour dire nous voulons le bonheur. Nous voulons et nous exigeons le bonheur. Et nous allons faire tout ce qu'il faut. Mais le bonheur sans Dieu... Le bonheur sans le vrai Dieu, c'est illusoire, c'est un mirage, c'est quelque chose qui échappe, on le sait bien. Décliné sous d'autres formes aujourd'hui, on voit bien notre société du XXIe siècle. C'est une chimère, nous voulons le bonheur, et puis voilà, hein, il s'en va, il se volatilise. Alors, pour revenir, ils se dirent l'un à l'autre, parce qu'ils se parlent et ils se comprennent, hein, ils parlent la même langue encore. Ils vont dire « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il y a un grand slogan du XIXe siècle, social, « L'union fait la force ». Voilà. On n'est pas syndicaliste, mais on sait que quand on veut réussir quelque chose, tout seul, ça peut être difficile. C'est vrai. Mais quand vous amassez, quand vous associez diverses compétences, eh bien, on peut arriver à quelque chose. Quand on voit ces gros bateaux à Saint-Nazaire, on se dit, on est émerveillé. En deux ans et demi, ils font un bateau, mais alors gigantesque. Et là, ils associent les capacités et les compétences des uns et des autres. Et ça fait quelque chose de formidable. Et les avions, c'est pareil, et toutes les constructions d'une manière ou d'une autre. Donc l'union fait la force, c'est ce qu'ils se disent. Mais qui est le chef? Il ne nous est pas parlé qu'ils ont eu un chef, mais ils devaient l'avoir. Parce que, vous savez, quand il y a une société, il y en a toujours un qui dit, c'est moi le chef. Et il suffit qu'il y en a un qui dit, c'est moi le chef, dit, non, c'est moi. Alors bon, ça, vous connaissez un peu l'histoire, ça fait des histoires. Et c'est souvent, comme on dit, l'union fait la force, c'est souvent par la force qu'il y en a un qui prend le dessus sur les autres, quitte à les éliminer réellement, pour dire, eh bien voilà, c'est moi qui suis eh bien, à la tête et c'est moi qui commande. Et là, il n'y a pas de chef apparemment. Mais le mot d'ordre qui unit ces hommes néanmoins, c'est « allons et bâtissons ». Ouais. Et vous savez, ça me rappelle quand même une belle parabole du sermon sur la montagne. Allons et bâtissons. Ça fait écho quand même à ce que Jésus nous dit et qui revient toujours à notre réflexion de savoir qui est Dieu, si Dieu est notre chef, si nous marchons derrière lui et lui devant. C'est la parabole du fou qui a construit sa maison sur le sable. Eh oui. Et au départ, ça tient la route. C'est vrai, vous regardez le plan, c'est bien, c'est formidable. Vous êtes sur le sable, sur la grève, sur le rivage. Vous avez un beau paysage maritime devant vous, tant qu'il fait beau. Le jour où il y a un tsunami, où il y a une tempête, où il y a un glissement de terrain, vous vous retrouvez au bain. Voilà, tout simplement. Et avec quoi nous bâtissons ? Parce que là, ils sont prêts à s'engager. Ils sont, parce que vous savez que l'humanité, l'homme par lui-même, les hommes ensemble, ont une force de caractère et de tempérament considérable. On le voit en temps de guerre. Hé, quand véritablement, eh bien, une nation est presque à l'extermination, je peux vous dire que là, à ce moment-là, il y a des sursauts hein, pour gagner la guerre. Ou quand il y a des grandes catastrophes, les hommes sont prêts à remonter leurs manches et à travailler et à faire des choses formidables. Quand on regarde l'histoire de notre civilisation et l'histoire des civilisations, que ce soit les pyramides anciennement ou les temples ou tout ce que vous voulez, quand on voit aussi aujourd'hui nos gratte-ciels, notre technologie super avancée, on se dit « mais les hommes sont capables de faire quelque chose ». Ils ont une force et pourtant Jésus nous dit « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Et pourtant ils le font. Et ils le font avec une détermination, avec une application, avec quelquefois une sagesse. Et on se dit « mais, ah oui ». Il y a quand même une intelligence quand même qui a été donnée à l'homme. Hein. Quelque chose. Hein. Alors avec quoi ? Eh bien, ils vont construire avec les moyens du bord à l'époque, hein. Avec la brique. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, avec cette conséquence, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Vous avez remarqué ? Leur servit. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Parce qu'il y a une raison. La brique, c'est une pierre artificielle. Ah oui, c'est fait de main d'homme, c'est fait avec la main de l'homme, c'est de l'argile hein, qui est pétrie, mélangée peut-être avec, je ne sais pas moi, de la paille, enfin du temps d'Égypte, c'est ce qu'on a appris. Hein. C'est une pierre artificielle, mais ce n'est pas la pierre angulaire, ce n'est pas la vraie pierre, parce que la vraie pierre, la Bible nous en parle, la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est Dieu venu sur terre par la personne de Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est solide. Je suis le rocher. Je suis le rocher des siècles. Je suis la forteresse. Je suis votre asile protecteur. Ça, c'est la pierre, c'est Jésus-Christ. Alors, au lieu d'avoir Dieu, eh bien, ils se sont dit, nous, on va remonter nos manches et on va se mettre à faire des briques. Voilà, pierre artificielle. Et le bitume ? Le bitume, c'est un... C'était un matériau de scellement supposé pour unir. Et le bitume, c'est pas tout à fait comme du ciment. Moi, je connais pas grand-chose, mais enfin, les ciments, il y a des ciments aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose de solide. Hein. Ouais. On ne construirait plus avec du bitume maintenant, non, je pense pas. Ouais. On pourrait dire, j'ai du pétrole chez moi. Mais ce sont toujours des à côté. C'est pas la réalité. C'est toujours l'ersasme, c'est toujours, en quelque sorte, je ne veux pas dire la contrefaçon, parce que ce serait un mot exagéré, mais c'est toujours une copie. Ce n'est pas la pierre, c'est une pierre artificielle. Ce n'est pas du vrai ciment, un vrai mortier, mais c'est du bitume. Et vous savez comment les hommes se sont unis pour essayer de construire ? Moi, ça me fait penser à ce bitume, ça me fait penser à la religion. D'ailleurs, le mot religio, ça veut dire tout simplement mettre en lien, relier, religion. Voilà, mettre en lien. Et ça, ça a été quelque chose. Le bitume de ces hommes de Babel, c'était justement la religion. Ils se sont créés des religions puisqu'ils ne pouvaient pas, et ils ne voulaient pas supporter Dieu. Ils se sont dit, ben, la religion, elle va véritablement partir de la terre et puis on va essayer d'aller vers le ciel. Alors que finalement, la véritable religion, elle vient du ciel et elle descend vers les hommes dans une personne vivante et ressuscitée, c'est Jésus-Christ. Et pas besoin de religion à ce moment-là. Nous avons déjà le lien. Nous avons la relation. Le verset 4 nous dit ceci, pour aller un peu plus loin. Ils dirent encore, ils se parlent beaucoup. Hein. Et pour se donner du courage, ils disent toujours la même chose. Allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça, c'est intéressant. Et voici, l'humanité sans Dieu, livrée à elle-même, puisqu'ils ne veulent pas. De ce grand Dieu créateur, et dont ils auraient besoin aussi du salut, eh bien, elle était livrée elle-même, et ils ont un projet ambitieux, comme tous les hommes dans tous les temps, c'est-à-dire s'élever. Si j'ai bien lu, « Bâtissons-nous, dont le sommet touche le ciel. » Voilà. Le sommet touche le ciel. Alors, des constructions comme Babel, il y en a eu d'autres. Il y avait les tours de New York, là, elles sont descendues. Mais il y en a beaucoup dans le monde. Il y a la plus grande tour du monde, elle fait 800 et quelques mètres, imaginez-vous. Elle se trouve comment ça s'appelle, dans la péninsule arabique, à Dubaï, oui, voilà, c'est ça. Alors, quand vous êtes au 850e étage, dites donc quelle vue vous avez. Vous voyez la France, là-bas, presque. Ah oui, non, mais les hommes sont capables de faire... Alors, il y a, naturellement, dans la construction, mais dans la technologie, vous vous rendez compte de ce qu'on est capable de faire? Des super avions, là, qui font comme l'Airbus, le dernier, là, le super. Puis les Américains font la même chose. Et puis, toutes les objets spatiaux que l'on envoie, là, bientôt on va être sur Mars et tout ça, bah, c'est monter jusqu'au ciel, c'est toucher le ciel. C'est la même ambition, c'est la même chose. Voilà, que ça vole, que ça... Voilà, d'une manière ou d'une autre. Alors, le plan est rempli d'ambition, c'est s'élever, c'est toucher. Et à ce moment-là, la prospérité va les enorgueillir, va les amener à tomber dans l'orgueil. Ils vont s'élever, parce que non seulement ils s'élèvent par leur intelligence et leur capacité, leur génie humain, mais c'est leur cœur qui s'élève. D'ailleurs, je dirais, c'est le cœur qui s'est déjà élevé pour mettre en œuvre tout le reste. Donc, ça va les faire tomber dans l'orgueil au point d'oublier celui qui les a créés. Parce que ce qu'ils sont, ces hommes, cette humanité de Babel, ils ne sont pas venus comme ça. Ce qu'ils sont, c'est parce que Dieu les a créés et leur a donné l'intelligence, leur a donné des capacités, leur a donné la vie, leur a donné le souffle, leur a donné la réflexion, leur a donné de faire des plans. Mais ils oublient la racine. Comprenez ? Quand vous coupez une belle branche au printemps, toute fleurie, vous la mettez dans un vase, vous la voyez sur l'arbre, elle est fleurie, vous la mettez dans votre maison, elle restera fleurie peut-être pendant 10 jours ou 15 jours, mais au bout d'un certain temps, elle va faner. Si elle reste sur l'arbre, elle va porter des fruits parce qu'elle est en osmose avec la racine. Mais quand vous coupez la branche et vous la mettez dans un vase, ça sera quelque chose de temporaire. Ça sera quelque chose qui va être finalement, fini d'ici quelque temps. Il n'y aura pas de suite. Eh bien, c'est ça l'humanité. Une humanité qui a coupé les liens, qui a coupé sa base avec Dieu, c'est une humanité qui est perdue. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Alors, ils oublient, naturellement. Ils veulent se faire un nom, nous dit le texte, c'est-à-dire constituer une puissance de domination qui est l'image de la tour. Pourquoi fait-on des tours? C'est pour monter au-dessus et voir ce qui se passe autour. Voilà. Ben oui, une tour, c'est ça. Alors, bien sûr, ça permet de loger dans un espace réduit beaucoup de gens. Ça tourne mal, souvent. On sait comment ça se passe dans les banlieues et tout ça. On fait des tours et après on les casse parce qu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est une véritable ruche. C'est terrible. Donc, voilà. Puissance de domination. Et ensuite, cette puissance de domination, pour leur donner l'illusion de se rendre maître à jamais de leur destin sur Terre, en disant, si nous sommes en haut, tous ceux qui sont en bas, nous allons pouvoir les dominer. Nous, nous sommes en haut, nous sommes au sommet. Alors, il y a différentes façons de concevoir. Ça peut être physique, mais ça peut être moral. Ça peut être politique. Ça peut être militaire. Ça peut être philosophique, intellectuel, enfin, tout ce que vous voudrez. Les tours. Ça, c'est l'humanité qui construit ces tours. Et avec ça, il se dit, bien, moi, je suis fort et je ne crains rien. Jusqu'à, nous dit le passage, jusqu'à s'élever jusqu'au ciel. Et pourquoi pas, parce que l'homme est ainsi, et pourquoi pas prendre la place de Dieu et régner. Vous savez, dans toutes les civilisations, les sociétés, les rois, les tyrans, les chefs militaires, les génies de stratégie, de je ne sais quoi, ils ont tous voulu, finalement, être à la tête. C'est très troublant tout cela. Et moi, je me suis souvent demandé s'ils n'avaient pas compris, avant et après, si tous ces hommes n'avaient pas compris. Il y en a qui sont peut-être mus de bons mobiles, de biens publics, mais quand même, quelque part se faire un nom. Et s'ils n'avaient pas compris la formule que le diable était venu susurrer à Jésus dans le désert pendant 40 jours, « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette richesse et tout ce pouvoir qui existe dans le monde. Mais tu fléchis le genou devant moi. Attention, cette parole, elle n'est pas tombée. Elle n'est pas restée comme cela, hein, tout simplement. Alors, une tour, ils se construisent une ville. Parce que les villes, ce sont des lieux qui rassemblent habituellement les hommes dans des endroits confortables et de sécurité. D'ailleurs, dans le Moyen-Âge et dans toute l'histoire de l'Antiquité, les villes étaient avec des murailles, hein, comme à Guérande, par exemple. Et aujourd'hui, c'est fini tout cela. Hein. Mais un aspect de sécurité. On est entre nous. On parle la même langue. On a les mêmes mots. On ne s'entend pas toujours, mais quand même, on est copains-copains. Hein, parce qu'on a des intérêts ensemble. Des intérêts que nous partageons. Alors, une ville, naturellement. Mais c'est illusoire. Cette tour, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, une ville, une tour. Réalisation du savoir et du pouvoir humain à travers la science, à travers l'idéologie, à travers les technologies, la politique, l'économie, etc. etc. Eh oui. Je ne sais pas s'il y a des... Ah oui, il y a des tours hein, maintenant à Saint-Nazaire. Il y en a deux, là. Hein. Si vous voulez, vous pouvez louer des bureaux. Hein. Ils sont toujours vides. À Paris, nous avons la tour Eiffel. Voilà. Et puis, dans toutes les villes, il y a toujours un... Hein, Paris-Montparnasse aussi, il y a la tour Montparnasse du même nom, naturellement. Ça, c'est quelque chose qui font que les gens riches, ils veulent toujours s'élever avec des belles maisons, des ceci et cela. Toujours, hein. C'est très humain, c'est naturel, ça peut se comprendre. Mais tout ça pour se faire un nom. Une tour, une ville pour se faire un nom. Que l'on n'oublie pas dans les générations. Parce qu'on sait que l'homme sait par nature que de toute façon, à un moment ou à un autre, il n'est comme qu'un souffle, il n'est comme une fleur qui éclot le matin et qui fane le soir. Nous sommes que de la poussière, nés de la poussière. Mais il avait oublié que nous sommes nés aussi d'éternité. Ça, c'est quand même la grande différence. Alors un nom, c'est une identification unitaire. Notre identification unitaire, c'est que nous sommes français. Même s'il y a des Bretons, des Auvergnats, etc., etc. nous sommes français. Les Allemands, c'est la même chose avec les différentes provinces. Et puis ceci et cela. Il y a une identification, une identité que l'homme a besoin d'avoir. Et il le veut. C'est caractérisé par sa langue, c'est caractérisé par sa culture, par toutes sortes de choses. En d'autres termes, être un citoyen d'un pays. Être. Mais est-ce que c'est vraiment pour être ou pour paraître? Parce que dans l'histoire de Babel, c'est ça toute la question. Paraître le plus fort, le plus riche, le plus puissant, pour que nous puissions garder un nom en disant, voilà, cet homme, il a fait ceci, il a fait cela. Je ne sais pas si parmi nous, nous laisserons notre nom au coin d'une rue, d'une avenue et d'un boulevard. Ça vous dirait pas? Ouais. Monsieur un tel, bienfaiteur de l'humanité et tout ça. Enfin, bon, je ne voudrais pas vous mettre des mauvaises pensées dans votre cœur. Ouais. Mais il y a des hommes qui, ils y vont, ils accrochent, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais voilà, un monde qui ne connaît plus ni ses limites et ses devoirs. Et c'est bien le drame, ni ses limites et ses devoirs. Et là, c'est une société qui risque, comme ça s'est passé à travers tous les siècles. Les grands empires se sont effondrés les uns par les autres et les uns après les autres. C'est le risque des dérives. C'est le risque de l'égarement, c'est le risque de l'anarchie pour arriver à la confusion. Écoutez, Dieu dit à ce moment-là, confondons leur langage et qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et un peu plus loin, là, c'est là que Dieu, que l'Éternel confondit leur langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils voulaient rester au même endroit. Eh bien, Dieu leur a dit, maintenant vous allez faire du voyage. Parce que j'avais dit, au départ, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, multipliez-vous et remplissez la terre. Et quand l'homme entend cela en disant, oui, on veut bien se multiplier, mais on veut rester tous ensemble. Remplissez la terre. À propos, justement, de confusion, le texte que nous avons devant les yeux ce matin, dans le langage imagé oriental, nous rappelle que ce gigantesque syndicat, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, il y a du social dans tout cela, hein, on l'a vu, allons et bâtissons, avait oublié une chose essentielle, c'est que Dieu regarde. Il ne dit rien, le Seigneur. Vous savez, il est au milieu de nous. Hein. Mais il regarde. Dieu regarde. Dieu qui a fait l'homme à son image, en sorte que l'homme, s'il répudie son Dieu et son Père, est incapable de réaliser une durable fraternité. Aujourd'hui, le slogan de notre monde, après toutes ces guerres terribles et abominables qu'il y a eu dans les siècles et dans le dernier siècle, aujourd'hui, nous parlons de fraternité. Nous parlons d'union, nous parlons de réunion, nous parlons de mondialisation, nous parlons de tout cela. Ça, c'est notre langage de tous les jours. Mais nous parlons aussi de racisme, de xénophobie. Et nous parlons de nationalisme. Et nous parlons d'une manière, d'une autre. Mais comment voulez-vous ? Et nous parlons de paix, la paix, la paix, la paix. Nous avons là, tous les deux mois, un congrès sur la paix, soit à Genève ou à New York ou dans telle ou telle ville. Les grands du G8 ou du G20 maintenant, eh bien, se rassemblent pour trouver des solutions de paix. Mais la paix sera toujours illusoire. Le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, nous dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Et quand il est dit méchant, apparemment ces gens n'ont pas l'air d'être méchants. Mais ils sont méchants de cette méchanceté qui rejette Dieu et dont leur cœur est complètement incrédule. L'incrédulité, c'est de la méchanceté. C'est de ne pas reconnaître notre Créateur et qui plus est, quelle ingratitude, notre Sauveur qui a tout fait. C'est ça, hein. Donc, il n'y aura pas de fraternité sur la terre. Parce qu'il y aura toujours un petit malin qui dira à moi, c'est à moi. Vous connaissez, hein ? Ouais. Le chrétien a une devise, hein ? Tout ce qui est à moi est à toi. Hein ? Et certaines doctrines populaires, tout ce qui est à toi est à moi. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas gênés de prendre dans la poche des autres. Ah oui, mais c'est le monde, hein, c'est comme ça. Alors le monde dont nous parlons de Babel, il peut cimenter des briques, mais il ne pourra jamais cimenter les cœurs. C'est toujours à côté. La brique, c'est de la brique. La pierre, c'est de la pierre, c'est autre chose. Mais notre Dieu est venu prendre des cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair remplis de son esprit. Alors ça change tout, naturellement. De l'impiété, de l'égoïsme, de la vanité, naissent la jalousie. Et c'est ça ce qui détruit notre société, notre monde. L'exploitation et la division, domination de l'homme par l'homme. Les hommes ne se comprennent plus à Babel. Ouais. Et ils s'opposent et ils se dispersent parce qu'ils ne se comprennent plus. Et ils cessent de bâtir. Vous savez que depuis Babel, contrairement aux apparences, vous allez me dire, mais Alain, il n'y est plus. Hein. Mais contrairement aux apparences, la vraie société inspirée par Dieu s'est arrêtée depuis Babel, vous vous rendez compte? Mais vous allez me dire, regardez les villes, regardez les technologies, regardez ce que l'homme est capable de faire, regardez le monde qui est sorti de ses mains et de ses capacités. Oui, d'accord, mais attendez, ça ce n'est que l'extérieur. Mais le cœur de l'homme, l'âme humaine, l'esprit de l'homme, où il en est rendu? Il en est toujours au point de Babel. La confusion. D'ailleurs, c'est facile à vérifier. Hein. Demandez aux gens s'ils ont des certitudes, des assurances. Ils vous diront oui, philosophique, il n'y a pas de problème. Et ils sont très butés. Hein. Mais au niveau du cœur, au niveau d'une régénération, au niveau d'une nouvelle naissance, au niveau d'une conviction de ce qu'est le ciel, de ce que Dieu a préparé dans le ciel, où il les attend pour un bonheur éternel, où la paix, la justice, où la vérité, où il n'y aura plus d'ombre que de la lumière pleine et entière, où l'amour dominera. La société humaine s'est arrêtée à Babel. Il nous est dit qu'ils cessèrent de bâtir. Mais est-ce que c'est seulement l'histoire de la tour de Babel que nous sommes en train de vérifier? Qu'est notre civilisation, sinon un amas formidable de briques, j'allais dire de briques et de brocs, de briques et de bitumes sur lesquels les hommes, ayant tourné le dos à Dieu, et comme quelqu'un tourne le dos, on l'appelle un traître. Ouais. Traître à Dieu, cette humanité qui se dispute parce qu'ils ne se comprennent plus et on n'est pas prêt de se comprendre. Regardez sur le plan économique ou commercial aujourd'hui. Hein. Oh. Moi, j'admire les gens qui, diplomates et tous les uns et les autres, pour éviter qu'il y ait la guerre. Hein. Que je peux vous dire que quand il y a des intérêts, quand il y a de l'argent, parce que c'est un monde de ça, hein, c'est Mammon hein, qui domine, hein, faut pas se faire d'illusions. Je me dis, mais Seigneur, fais-les jouer au football pendant ce temps-là, hein, ils font pas la guerre. Hein. Ah oui, parce que c'est ça. Mais de toute façon, les responsables politiques l'ont bien compris. Hein. Les compétitions sportives, c'est fait pour le défoulement. Quelquefois, ça va un peu loin. Hein. Mais les gens, pendant ce temps-là, ils crient, ils sont là en train de hurler, ceci et cela. Ça passionne le monde entier, hein, tout cela. Hein. Oui. Enfin, on va pas reparler de la Coupe du Monde, parce que là... Là, c'était la dispute. J'y pensais en même temps que je vous le disais, alors je voudrais pas quand même... Sans le secours du Créateur, la créature peut entreprendre, elle peut réaliser de grandes choses, mais tout ce qu'elle entreprend ne sera jamais mené à bien pour le bonheur, pour le bien-être et la sécurité des hommes. Jamais. Excusez-moi, ça casse à un moment donné. Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Alors, je dis que l'homme veut jouer à Dieu. Comme les enfants jouent à ceci et cela. On joue à Dieu. Si j'étais Dieu. Vous avez déjà posé la question ? Non, vous êtes modeste. Si j'étais Dieu, je ferais ceci et cela. Ah oui, moi, il y aurait de l'ordre. Je peux vous dire que si j'étais Dieu, je peux vous dire que ça marcherait ric-rac. Mais ça a déjà été essayé dans l'Ancien Testament. Et c'est pas pour ça que ça marchait. Si j'étais Dieu, je ferais grâce à tout le monde. Tout le monde. Nous irons tous au paradis. Vous connaissez la chanson ? Ouais. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors, vous savez, le ciel est tellement grand qu'il y en ait... 3, 4 milliards de plus, ça ne change pas grand-chose, il y a de la place. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un raisonnement moral avec une dimension spirituelle. Et il y a un grand défi à relever. C'est l'enjeu cosmique, universel, entre Dieu, notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur, et celui qui est l'ennemi de Dieu et notre ennemi en même temps, c'est le diable. Relisez les premiers chapitres du livre de Job et voilà, vous comprenez. C'est quelque chose qui nous dépasse quelque part. C'est pour ça que l'homme est libre de dire « Moi, je choisis Dieu parce que je sais que c'est Dieu. Parce que je sais qu'il m'a sauvé. Parce que je sais qu'il m'a pardonné. Et je sais qu'il est mon Père. Alors je le choisis, enverrai contre tout et j'irai jusqu'au bout. Parce que je sais qu'avec lui, entre ses mains, eh bien, je suis dans la bonne position, à la bonne place. » Mais il faut le faire, ça. Il y en a beaucoup qui pensent que tout ça, c'est trop difficile. Alors, on va revenir au verset 6. À la fin du verset 6, il est dit ceci. Maintenant, c'est Dieu qui dit cela, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté dans cette folie. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et on appela cette ville donc du nom de Babel qui veut dire confusion. Et l'Éternel a confondu le langage des hommes et ils se sont mis à se séparer les uns les autres. Les ambitions orgueilleuses de l'humanité entraîne cette même humanité à la ruine, à la dispersion, à toutes les désunions, y compris entre l'homme et la femme, ce qu'on appelle le divorce. C'est tout ça dans la même veine. C'est la même filière, c'est le même esprit, c'est la même inspiration, et ça vient du même enfer. Parce que ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Vous savez, quand les gens se désunissent, ils se disent « moi, c'est pour avoir ma liberté ». Mais ce n'est pas la liberté, au contraire, c'est la prison qui s'ouvre, d'une manière ou d'une autre, et d'autant plus ressentie quand il s'agit de la famille et du couple. Ça, c'est encore une autre affaire. Alors, des siècles s'écouleront, jalonnés de longues et interminables, excusez-moi, c'est cette expression que j'ai trouvée, traces rouges. Vous savez ce que ça veut dire ? La trace rouge, c'est le sang des hommes, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Parce que les hommes n'ont pas su faire autrement. Ouais. Dieu a donné du sang dans les veines aux hommes pour qu'ils gardent ce sang dans leurs veines et non pas le faire couler pour abreuver la terre comme elle a été abreuvée à travers des centaines et des centaines d'années. Ça, c'est le scandale. Le deuxième cortège, je termine dessus. Le deuxième cortège, c'est celui du Messie, c'est celui de Jésus, c'est celui de l'envoyé de l'Éternel, le Sauveur. Et pour cela, pour illustrer, j'aimerais que nous lisions dans Éphésiens, simplement, ce qui nous est dit dans ce beau texte. Je ne veux pas le commander parce que ça serait déjà un commentaire théologique qu'il faudrait approcher, mais néanmoins, on va voir quand même que ça avait été bien saisi par les hommes tels que Paul. Et il est dit ceci, de Éphésiens 2, chapitre 13 jusqu'au verset 18. Alors, je me suis trompé de référence. Voilà, c'est bien Éphésiens. Verset 13, il est dit, avec cette, cette conjonction de coordination qui introduit naturellement eh bien, notre lecture, mais. Mais, ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant. Il y avait peut-être quelque chose de totalement contraire. C'est la corruption et la dépravation de l'homme. Mais, maintenant, les choses ont changé. À partir d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, oui, parce qu'ils se sont dispersés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Vous savez, ce sang qui a coulé dont on parlait, cette trace rouge qui est partout sur toute la terre, sur les océans, partout. Eh bien, cette trace rouge, elle était aussi versée sur un mont à Jérusalem qui s'appelle Golgotha pour que les hommes n'aient plus à verser leur sang. Un sang rédempteur. Par le sang de Christ, car il est notre paix. On parlait de paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, puisqu'on parle de Babel et de la Pentecôte. L'inimitié ayant anéanti dans sa chair, dans son corps, dans son humanité, en venant homme, Dieu venant dans un corps d'homme, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ça, c'est pas du bitume. Ça, c'est pas de la brique. Ça, c'est véritablement du solide. Et il est réconcilié avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et l'inimitié, elle vient pas seulement d'en haut, elle vient pas seulement d'en bas, elle vient du haut, est exploitée dans le cœur de l'homme. Et elle est diabolique, cette inimitié. Et il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Et le mot esprit nous conduit à la Pentecôte. D'accord ? À la Pentecôte. Un même esprit avec un E majuscule. Entendez par là. Les hommes ont essayé d'édifier des civilisations de paix et des civilisations fraternelles. Mais le péché creuse toujours davantage le fossé de la séparation. Tant qu'il y aura le péché, tant qu'il y aura des hommes pécheurs, non repentis, non reconnaissant la souveraineté de Dieu sur leur vie, le salut en Jésus-Christ à la croix du calvaire, eh bien on parlera de paix, on parlera de fraternisation, on parlera d'union d'une manière ou d'une autre, sous quelque rapport que ce soit, mais il n'y aura jamais de paix. C'est pas possible, puisqu'il nous est dit que le prince de la paix, c'est Jésus. C'est lui qui est le roi de la paix. Le prince de la paix. Et sans lui, c'est pas possible. Et c'est là où nous nous retrouvons tout à fait dans la justesse de ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 15 et verset 6, me semble-t-il, si ma mémoire est fidèle, quand il est dit « Mais sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez toujours bricoler toutes sortes de choses. Mais vous ne pouvez rien faire. » Et on le voit. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est pas de se donner de grands projets, de belles réalisations, en disant le monde entier est uni autour d'un grand programme mondial. C'est pas ça. C'est le cœur qu'il faut changer. Vous avez vu qu'il y ait déjà dans les gouvernements un ministère du cœur ou un ministère du bonheur? Non, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que le jour où il y en aura un, je pense pas, hein, mais ça sera vraiment un chrétien. Hein. Parce que même ceux qui se disent chrétiens et même peut-être même ceux qui sont arrivés à certains, même on est évangélique, hein, à un moment donné, ils se font rayer par les autres parce que vous pensez que c'est gênant. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a crucifié Jésus, parce qu'il est venu, dire, mais moi, vous pouvez avoir le bonheur, vous pouvez avoir la paix. Et que vous savez ce qu'on en a répondu? Ah, ta paix et ton bonheur, on n'en veut pas. Hein. Allez hop, on te crucifie parce que tu nous déranges et tu nous embarrasses avec tes histoires. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, Jésus reviendrait dans les mêmes conditions qu'il y a 2000 ans, on continuerait et on referait exactement la même chose. Hein. Ça ne changerait rien. Parce que c'est le cœur qui a besoin d'être changé. Le fossé se creuse de plus en plus, le fossé du péché, de la séparation, jusqu'à ce que Dieu ait envoyé un trait d'union. Le ciel, la terre. Et non pas la terre et le ciel, mais d'abord le ciel et la terre. Une voie de réconciliation. Voie V-O-I-X et voie V-O-I-E, dans les deux sens. C'est un scellement. Et celui qui nous scelle, et nous l'avons écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est en nous crie naturellement, sans que nous forcions spirituellement, « Abba Père ». C'est pas beau ça? Enfin, moi je dis que c'est quelque chose de merveilleux et de formidable. Ah ouais, je me dis, mais Seigneur, comment tu vois les hommes? Et pourtant ils continuent à les aimer dans leur façon de vivre. Ce trait d'union, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Dieu avec nous, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et quand on lit, par exemple, et je vais finir, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je suis quelquefois étonné de voir tout ça, mais il y aurait tellement de choses à dire. Et on va lire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ça servira de conclusion brève. Alors, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On se souvient de Babel. Hein. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, le miracle est à l'inverse de Babel. Au lieu de se séparer, ils vont se réunir. Cette parole de l'Esprit va être comprise par la population qui est en train d'écouter. C'est l'inverse. Il y a de la cohésion dans la pensée de Dieu, hein, vous ne trouvez pas? Mais il y a une leçon. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, le souffle de l'Esprit le parlait en langue, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Auparavant, ils ne se comprenaient plus, mais là, ils se comprennent. Ils ont compris en tous les cas, pas le message des hommes, mais le message des hommes qui transmettaient le message de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Alors il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment, écoutez bien, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, à Babel, c'était pas les merveilles de Dieu, hein, c'était les merveilles de l'homme. Regardez, nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes formidables, nous les hommes, on n'a pas besoin de Dieu. Et là, c'est le contraire qui se produit. Un langage extatique, inspiré par l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, avec le signe initial qui est le parler en langue. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, édifiez-vous en priant par le Saint-Esprit. Alors on dit, Seigneur, je veux grandir. Je veux me développer, je veux me devenir un homme adulte spirituellement. Eh bien, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, priez donc en langue. Priez en langue, remplissez votre vie, remplissez votre réceptacle intérieur du parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous qui n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous le croyez de tout votre cœur, vous pouvez être baptisé ce matin. Je me souviens, et je le répète, mais je me souviens il y a quelques années, quand j'étais pasteur à Angers, un jour de Pentecôte, j'ai prêché un texte qui ressemblait peut-être certainement à celui-ci. Et au moment de la fin de la prédication, il y a eu 5-6 personnes dans l'auditoire qui étaient baptisées du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en langue. J'ai rien fait. Parler en langue, ça c'est le don de Dieu. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez l'être maintenant. Bénissez le Seigneur. Louez-le. Parce que c'est un don, c'est pas vos mérites. Mettez vos bonnes œuvres de côté. Ça ne sert à rien. Ça sert qu'à vous, handicapés. Et puis vos sentiments, je ressens pas. Alors là, laissez ça de côté parce que c'est pas la foi. Seigneur, tu baptises du Saint-Esprit aujourd'hui? Eh bien, je le crois. Et je te loue et je t'adore. Voilà, tout simplement. Alors, j'en arrive à finir. Ce qui est difficile pour moi d'arriver à finir. Parce qu'il y a des pages dans la Bible. Hein. La Pentecôte. Vous avez lu avec moi des gens de toutes langues, étrangers les uns les autres. Hein. sont venus de diverses nations de la terre à Jérusalem pour assister à la fête que l'on appelait la fête des moissons, la Pentecôte. Voilà, la Pentecôte. Ils étaient d'origine, de race, d'intérêts divers, y compris politiques, des mœurs familiales. Tout les sépare. Les autres s'étaient rassemblés parce qu'ils se ressemblaient. Là, maintenant, tout les sépare, ces hommes. Et même quand ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent déjà par petits clans. Mais à un moment donné, ça va faire qu'une grande famille. Or, voici une poignée d'hommes qui sont dans une chambre haute, nous rappelle le texte. Ce sont des gens qui sont habitués à se réunir pour prier. Et des gens qui, au fond de leur cœur, depuis quelques jours, une promesse qui leur a été donnée par quelqu'un qu'ils connaissaient bien, qui était mort pour eux, qui était ressuscité d'entre les morts, et qui était maintenant monté au ciel, l'ascension, et qui leur avait fait cette promesse. Attendez quelques jours, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et ces hommes viennent de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce que Dieu leur avait promis, ce que Jésus leur avait promis, ils l'ont reçu. Ce que Dieu vous a promis, vous allez le recevoir. Il faut en vouloir, hein. Si vous dites, peut-être que c'est peut-être pour les autres, mais pas pour moi, vous ne le recevez jamais. Mais si vous dites, Seigneur, aujourd'hui c'est pour moi, eh bien moi je vais le recevoir, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, il faut être déterminé, il faut vouloir. Il faut être comme la Cananéenne. Il faut être comme Jacob, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, Seigneur. Alors là, vous allez recevoir. Mais c'est les hommes qui ont été transformés par la grâce divine. Ce ne sont pas ceux qui sont de Babel. Ils ont été rétablis dans l'accord avec leur Père céleste. Dieu, pour eux, n'est pas seulement le Dieu créateur, mais il est le Dieu rédempteur. Et ils parlent, et leurs paroles éveillent dans le cœur de tous ceux et dans les âmes de tous ceux qui les entendent comme un concert, comme un chant, une harmonie, une symphonie. Les merveilles de Dieu, le ciel. Et la foule à ce moment-là est transportée. Et ils diront, mais comment les entendons-nous parler, chacun dans notre propre langue, des choses magnifiques, merveilleuses d'en haut. Alors à ce moment-là, il y a comme un souffle de l'esprit qui se passe. Les cœurs se fondent et se convertissent à Jésus. Un peuple de frères et de sœurs se constitue. Et un peuple de frères et de sœurs autour d'un père, qui plus est un père dans le ciel, c'est une famille. C'est pas une société, c'est pas un syndicat. C'est pas un groupement, c'est pas un mouvement, c'est une famille. Tout de suite, 3000 âmes sont baptisées au nom de Jésus et ils forment la première cellule de son royaume sur la terre. Et ils reçoivent le même mot d'ordre. Allons et bâtissons. Eh oui. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que vous allez entendre dimanche prochain. Parce que c'est le même mot d'ordre, allons et bâtissons, mais là ils ne vont pas y aller tout seuls. Mais qui sera l'artiste, l'architecte? Qui sera le maître d'œuvre dans tout ça? Ça ne sera pas les hommes, ça sera Dieu. Il aura donné son esprit pour décoder ses plans, pour comprendre sa volonté. Et quels seront les matériaux pour construire ce monde nouveau? Ça ne sera pas des briques, ça ne sera pas du bitume, ça ne sera même pas des pierres, ça ne sera même pas du ciment, ça sera des pierres vivantes, comme Pierre nous le dit, oui, pierres vivantes, oui, c'est-à-dire vous et moi, à travers tous les temps, tous les siècles. Mais pour la gloire de quel nom? Et pour quelle ville? La Jérusalem d'en haut. Pour quel nom? Eh bien, au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Et ils vont être liés pendant des siècles et des siècles, jusqu'à maintenant, pour ça que la division, elle est inadmissible dans une église. Et les gens qui veulent diviser, ce n'est pas leur place. Excusez-moi, je suis catégorique. Hein. On peut les supporter un moment, mais on ne les supportera pas. Non, non. Dans l'esprit de Dieu, il faut tendre la main pour que ceux qui s'égarent et qui ont des tentations de division, parce que souvent derrière la tentation de la division, c'est de l'orgueil, tout simplement. Je suis carré hein, ce matin, hein. Ça vient tout seul. Parce que c'est pas mon habitude. Hein. Oh, je suis pas méchant. Hein. Non, mais c'est vrai, quand je vois le texte et la pensée, je me dis non. Où est l'Esprit de Dieu dans cette affaire? Alors, au nom de Jésus. Et ils sont liés dans une communion spirituelle. Les bâtisseurs, à ce moment-là, ne craignent pas de se disperser. Allez par toutes les nations. Les uns vont aller en Orient, les autres vont aller en Occident, les autres vont aller au Septentrion, d'autres iront vers le Midi. Qu'est-ce que c'est que les missionnaires? Qu'est-ce que c'est que les œuvres, même jusque nos pays occidentaux, où il y a des églises, où on parle de Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas eu peur de se disperser, de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter les siens, pour dire, eh bien moi je réponds à un appel. À Babel, ils ne voulaient pas. À la Pentecôte, ils veulent. Et au contraire, ils le font avec joie, naturellement. Et ils vont partout. Finalement, ce sont des hommes de bonne volonté qui vont se mettre au chantier divin. Et partout, les hommes vont venir pour entendre l'Évangile. Oh certes, la même population que du temps de Jésus, des pauvres, des affamés, les cassés de la vie, les abîmés, les piétinés, ceux qui ont été labourés, des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, des violets, tout ce que vous voudrez. Oui, des malades, des infirmes, tout ce que vous voudrez. Et à ce moment-là, l'édifice va monter. Non pas une église cathédrale basilique avec une flèche ou des flèches qui montent vers le ciel, mais l'église de Jésus-Christ, l'église vivante, la vraie. Cet édifice, il n'est pas là pour défier le ciel. Il est là tout simplement pour l'unir à la terre. Seigneur, tu es au ciel, nous sommes sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça finalement la Pentecôte, tandis que tout s'écroule autour de nous. Parce que, quand même, hein, ça bouge. Hein. Entre les tsunamis, les raz-de-marée, c'est la même chose. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, et puis ceci et cela, et puis tout ce qui peut y avoir de convulsions, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas l'écorce terrestre qui craque, il y a bien d'autres choses. Alors, tout s'écroule autour de nous, mais les ouvriers de Dieu ne cessent de continuer à bâtir. Hein. Et plus que jamais, nous continuons à bâtir. Alors voilà, mes frères et sœurs, le miracle de la Pentecôte. On a bien compris hein, l'histoire de Babel et puis l'histoire de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous enseigne dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous sommes tes ouvriers. Alors peut-être s'il y a des amis qui nous rejoignent ce matin et qui n'ont pas pris de position, est-ce que oui ou non, et le Seigneur vous appelle, est-ce que oui ou non, tu veux rentrer dans cette grande famille, tu veux rentrer dans ce monde nouveau, cette nouvelle société qu'est l'Église, parce que Dieu t'y attend pour travailler avec les autres, et de pouvoir transmettre ce formidable message que Dieu nous aime pour sauver les hommes. Alors on va prier quelques instants, merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons, Père, que ta parole, elle est merveilleuse. Nous pouvons dire, et Seigneur, lorsque nous plongeons les regards vers cette parole, nous pouvons dire, mais il y a tellement de choses, Seigneur, tellement de choses que nous n'avons peut-être pas vues, peut-être pas compris, mais peu importe. Alors, Seigneur, si déjà tu nous révèles des choses formidables et merveilleuses déjà lorsque nous sommes sur la terre, mais qu'est-ce que ça va être le ciel? Oui. Le ciel, ce sera la plénitude. Le ciel, ce sera la totalité. Ça sera l'accomplissement, la perfection, Seigneur. Seigneur, tu nous visites. Oui, Seigneur, nous voulons tout simplement dire mais que nous sommes nés de la poussière. Mais tu as mis la pensée d'éternité et c'est en préparation de cette éternité que tu nous fais connaître ces choses. Alors nous voulons nous encourager et nous voulons nous dire les uns et les autres, allons et bâtissons, mais dans le bon sens. Oui, Seigneur. Parce que, Seigneur, si nous bâtissons et que nous allons sans toi, rien ne se fera. Mais si nous le faisons avec toi, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, Seigneur, de faire les choses sur cette terre, mais déjà par l'Évangile au nom de Jésus-Christ, lorsqu'un homme, une femme, eh bien, en effet, se remet de ses blessures, se guérit de ses péchés, dont la vie est transformée et changée. Mais ça, c'est, il n'y a rien de comparable, Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une cathédrale, c'est une basilique, Seigneur. C'est véritablement, Seigneur, eh bien, une demeure, un édifice à la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, bien différent des édifices humains. Merci, notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci de nous l'avoir rappelé ce matin. Amen. Amen.